On continue notre série sur le livre de Jacques, un livre très pratique, un livre parfois très direct, comme on le verra ce matin, qui nous parle, on l'a vu et c'est le titre qu'on a donné à cette série, qui nous parle d'une foi en action. Et parfois, et même souvent, je dirais dans ce livre, Jacques n'hésite pas à remettre les choses à leur place, à remettre les points sur les i, comme nous allons voir ce matin. Et la première prédication sur Jacques posait la question « Comment réagir face aux épreuves ?» Et la semaine dernière, avec Jean-Jacques, nous nous étions demandé « Comment réagir face aux tentations ?» Et ce matin, la question à laquelle j'aimerais que l'on répondre, la question que j'aimerais que l'on se pose, c'est comment réagir face à la parole, face à la parole de Dieu, face à la Bible, face à ce que Dieu nous dit. Donc à chaque fois que je dirai la parole, Jacques emploie la parole souvent, c'est la parole comme étant la parole de Dieu, la Bible. Et ce que Jacques va nous montrer ce matin, c'est que celui qui a reçu sa parole va obéir à Dieu. Celui qui a reçu sa parole va obéir à Dieu. Je vous propose la lecture donc de Jacques. On s'était arrêté à la fin du verset 18 dans le premier chapitre. Et donc je lis jusqu'à la fin du chapitre, à partir du verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ce matin, j'ai découpé la prédication, le texte en deux parties. Ce que je vous propose, c'est de voir que parce que Dieu nous a donné sa parole pour être heureux et libres, écoutons attentivement et obéissons activement. Parce que Dieu nous a donné sa parole pour être heureux et libres, écoutons attentivement, obéissons activement. La première partie, écoutons attentivement les versets 19 à 21. Et en fait, les deux parties de la prédication ce matin vont mettre en lumière deux pièges dans lesquels nous pouvons tomber quand nous sommes face à la parole de Dieu. Le premier piège, ce serait de ne pas l'écouter. Et si on remonte un peu, juste un verset avant, nous lisons que Dieu nous a engendrés par sa volonté, par la parole de vérité. Dieu nous a fait naître de nouveau par sa parole. C'est ce que dit Jacques ici. Pierre, dans sa première lettre, donc dans 1 Pierre, il dira la même chose d'une autre manière. Je lis. Nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et si j'ai lu un verset avant, c'est que le début du verset 19 commence par « Sachez-le, mes frères bien-aimés ». Et ce qu'il faut savoir, c'est justement ce qu'il dit juste avant. C'est que Dieu nous a engendrés par sa parole. Que Dieu utilise sa parole par la puissance de son esprit pour nous amener à la vie. Et après avoir dit cela, et dans tout le reste de sa lettre, Jacques va poser une question à ses lecteurs. Il va leur demander maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et maintenant, comment on vit ? Et maintenant, est-ce que notre vie reflète cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée par sa parole ? Et dans cette première partie du passage ce matin, Jacques contraste deux attitudes. Écouter la parole et se garder de la colère. Il met en opposition écouter la parole et se mettre en colère. Ou dit différemment, juste après, recevoir la parole et rejeter toute méchanceté, toute souillure. Et quand on lit ce passage, on peut se dire que ça fait écho à deux registres que l'on connaît déjà. Deux registres qui nous sont familiers si on lit la parole depuis quelque temps. Le premier, c'est les proverbes. Et le second, c'est les évangiles, et notamment le sermon sur la montagne. Et on va voir la manière dont Jacques emprunte à l'un et à l'autre, surtout au sermon sur la montagne. Et on va voir tout au long de l'épître que Jacques est fortement influencé par le sermon sur la montagne et va remettre l'éthique de Jésus au cœur de la vie chrétienne. Alors par exemple, on pourrait penser à Proverbe 13:3, je vous lis. « Celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à sa perte. » Ou un autre proverbe, Proverbe 19:20. « Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. » Et dans le sermon sur la montagne, on entend les échos des paroles de Jésus qui encourageait ses lecteurs à rechercher la justice. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ou encore cet avertissement solennel de Jésus contre ceux qui se mettent en colère. Je lis, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raca » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira « Insensé » sera passible de la géhenne du feu. » Et on voit que la force de ce que dit Jacques dans ce passage n'est que le reflet de la force de ce qu'avait dit Jésus dans le sermon sur la montagne. Et Jacques, il est clair, et il le dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, n'accomplit pas la justice que Dieu attend de ceux chez qui la parole a été plantée. Alors ici, Jacques ne parle pas de quelqu'un qui se met en colère une fois, ou quelquefois, parfois, mais il parle de quelqu'un qui a un problème avec la colère. Quelqu'un qui serait défini par sa colère. Peut-être quelqu'un à qui l'on a peur de parler parce qu'on a peur de sa réaction. Peut-être à quelqu'un à qui on a peur de faire une remarque parce qu'il peut se transformer en un volcan. C'est de ce genre de personnes dont parle Jacques ici. Et Jean-Jacques, la semaine dernière, avait repris l'image d'un vase. Il avait dit quand on renverse un vase, ce qui se renverse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et Jésus l'avait dit, quand on se met en colère, en fait, on voit ce qu'il y avait dans notre cœur. Ce qu'on voit de l'extérieur nous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Et au début de sa lettre, Jacques avait commencé par parler des épreuves. Il avait rappelé que par les épreuves, Dieu visait notre transformation et Dieu voulait nous rendre patients. Ici, il le dit, les épreuves ne doivent pas nous mener à la colère, les épreuves doivent nous mener à la patience. Et Jacques nous demande de rejeter la méchanceté pour accueillir la parole qui a été plantée en nous. La même parole qui nous a engendrés, a-t-il dit juste avant, c'est cette même parole qui nous transforme pour nous rendre de plus en plus conformes à Christ. Dieu nous parle. Est-ce que c'est quelque chose que vous croyez ce matin? Ça me rassure. Dieu nous parle, mais comment écouter? Comment écouter Dieu? J'aime bien cette citation de John Piper. Qui dit, tu veux entendre Dieu parler? Bah oui. Tu veux entendre Dieu parler? Lis ta Bible à haute voix. Tu veux entendre Dieu parler? Lis ta Bible à haute voix. Alors ça nous fait sourire. Mais en plus de nous faire sourire, ça devrait nous réconforter, nous remplir de joie. C'est une des premières choses que l'on apprend à l'école du dimanche. Enfin, j'espère qu'on apprend ça à l'école du dimanche. Que Dieu parle quand on lit notre Bible. Quand je lis ma Bible, Dieu me parle directement. C'est à la fois tellement simple, tellement merveilleux et tellement facile à oublier. Tellement facile à oublier. Combien de fois nous nous disons, combien de fois je me dis que j'ai mieux à faire, que j'ai plus important, que j'ai plus urgent. Plus important, plus urgent, mieux que d'ouvrir notre parole et d'entendre Dieu nous parler directement. Dit comme ça, c'est absurde. Mais parfois, c'est comme ça que nous agissons. Pourtant, Dieu agit en nous par sa parole. Lire la Bible, nous rappelle Jacques, c'est écouter Dieu et nous laisser nous façonner. Dieu travaille en nous par sa parole et par son esprit. Petite question, est-ce que nous écoutons Dieu tous les jours? Est-ce que nous considérons notre lecture de la Bible comme une corvée ou comme un plaisir? L'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu, c'est celui qui nous aide à comprendre ce que nous lisons et qui nous montre ce que nous devons changer. Dans un passage qu'on aura lu des dizaines et des dizaines de fois, c'est l'Esprit de Dieu qui va faire ressortir quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Ou alors quelque chose qui prend une signification particulière, parce que l'Esprit de Dieu l'aura mis en lumière pour nous cette fois-ci. L'Esprit de Dieu se sert de la parole pour nous montrer ce que nous devons retenir, ce que nous devons savoir, ce que nous devons changer. Parfois, il agit comme un arbitre qui siffle pour nous signaler une faute. Parfois, il agit comme un scanner qui révèle l'état de notre cœur. Deuxième question. Si on fait le bilan ce matin, est-ce que récemment l'arbitre a sifflé une faute et j'ai continué à jouer comme si de rien n'était? Normalement, c'est carton rouge. Est-ce que l'esprit m'a montré quelque chose et j'ai dit ouais, ok, je sais, salut, à bientôt, pas maintenant. Le ok, j'ai compris, le j'arrive quand notre mère nous appelle pour descendre manger. À table, j'arrive. ce j'arrive qui dure 2 heures. Mais Dieu nous a donné un autre moyen de l'écouter. L'Église. Dieu nous a donné nos frères et nos sœurs pour nous encourager quand nous sommes abattus, pour nous relever quand nous sommes découragés, pour nous reprendre quand nous nous égarons. Troisième question, est-ce que nous voyons nos frères et sœurs comme un moyen que Dieu emploie pour nous parler? Est-ce que nous faisons partie d'un groupe de maison? Alors, je ne fais pas de la pub pour les groupes de maison, un peu, mais pas juste pour grossir les groupes de maison, parce qu'on a l'intime conviction que les groupes de maison sont un moyen que Dieu utilise pour nous faire grandir. La communion des frères et des sœurs, dans une proximité qui permet la parole, qui permet le partage, qui permet l'écoute, qui permet la prière. Les groupes de maison sont un moyen que Dieu utilise pour nous faire grandir. Ensemble, entre nous, nous voulons écouter Dieu. Deuxième partie, obéissons activement, versets 22 à 27. Premier piège, on avait dit, ce serait de ne pas écouter Dieu. Le deuxième piège, nous dit Jacques, ce serait de ne faire, que d'écouter. Pour Jacques, écouter la parole, c'est, sans la pratiquer, c'est s'abuser par de faux raisonnements. Mais s'abuser de quoi? Si on lit le texte et si on regarde juste avant, le verset juste avant, peut-être c'est s'abuser, peut-être c'est croire à tort que nous avons reçu la parole qui peut sauver nos âmes. Écouter sans pratiquer, c'est s'abuser. Et encore une fois, on discerne les échos du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne finit avec une série de 3 paraboles. Et la dernière est sûrement la plus connue. C'est celle de 2 hommes qui construisent 2 maisons. Est-ce que vous vous rappelez cette histoire? Alors, il y en a un qui est sage. Pourquoi? Enfin, comment on le sait qu'il est sage? Parce qu'il construit sa maison sur le roc. Exact. L'autre, il est décrit comme un fou, comme un insensé. Pourquoi? Parce qu'il construit sa maison sur le sable. Et en fait, on voit. Ce que font ces hommes nous montre qui ils sont, nous montre leur caractère. Et quelle est la différence entre les deux? Le fondement. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui écoute Jésus et qui met sa parole en pratique, et l'autre qui écoute Jésus et qui ne met pas sa parole en pratique. En fait, c'est ça le fond de cette parabole. Jésus finit le sermon sur la montagne, tous ses discours, en disant « Vous avez écouté, vous êtes venu me voir, vous avez entendu les discours, maintenant qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous repartez comme chez vous comme si de rien n'était, ou est-ce que vous mettez en pratique ce que je vous dis ?» La différence entre ces deux hommes, c'est que les deux écoutaient, mais l'un a obéi à Jésus, l'autre n'a pas obéi. Et à la fin de Matthieu 7, Jésus donne cette leçon dure, ce message fort. Celui qui ne fait pas ce qu'il dit n'est pas son disciple. Et on le voit dans la série des 3 paraboles qui viennent conclure ce sermon sur la montagne, que les disciples de Jésus sont ceux qui portent des bons fruits, ceux qui font la volonté de son Père et ceux qui mettent en pratique les paroles de Jésus. Et Jacques a très probablement ce passage en tête lorsqu'il écrit ce que nous avons lu ce matin. Dans Jean, Jésus le dit autrement. Il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. » dans Jean, l'obéissance est la marque de l'amour. Celui qui aime Jésus obéit à Jésus. Celui qui n'obéit pas à Jésus montre par là qu'il n'aime pas vraiment Jésus. Revenons au texte. Jacques contraste aussi deux hommes. Le premier écoute la parole mais ne la pratique pas. Et Jacques le compare à un homme qui regarde son image, son visage dans un miroir, qui s'en va et qui oublie aussitôt comme il est. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? À l'époque, les miroirs n'étaient pas aussi précis que maintenant. Le reflet était assez grossier et il fallait regarder avec attention pour y décerner les détails de notre visage. Et Jacques dit que écouter la parole, c'est comme regarder dans un miroir. Et que cet homme peut-être a vu quelque chose qui n'allait pas sur son visage, peut-être a vu quelque chose qui salissait son visage, mais repose son miroir et retourne à ses occupations. Ce qu'il a vu dans son reflet l'appelle à agir. Mais cet homme fait comme si de rien n'était. L'impression est momentanée. Elle ne débouche pas sur l'action. Et parfois, c'est aussi le cas pour nous. Nous savons ce que Dieu dit. Nous savons ce qu'il veut. Nous savons ce que Dieu demande. Mais nous reposons notre Bible et nous vaquons à nos occupations. Et c'est de cela dont Jacques parle ici. Mais il y a un autre homme, nous dit Jacques. Cet homme, non seulement il écoute, mais aussi obéit. Et en plus de ça, Jacques nous donne des indications sur la sorte d'obéissance dont il parle. Il parle d'une obéissance active, une obéissance qui persévère. Parfois, on a une conception un peu magique de la parole de Dieu. Je m'explique. Parfois, on pense qu'il suffit de la lire, de la comprendre et de vouloir très fort obéir pour y arriver. Mais vouloir quelque chose très fort ne nous amène pas très loin. Je peux vouloir très fort être capable de courir un marathon, mais la volonté ne suffit pas. Il faut que je passe à l'action, il faut que j'établisse un programme. Il faut que je mette en place un régime de nourriture, le repos nécessaire, que je persévère pour que je puisse aligner les kilomètres. Si je reste sur mon canapé jusqu'au jour de la course à regarder des séries, même si je l'ai voulu très fort, pas sûr que je dépasse le kilomètre 3. Ma femme dirait encore « t'es optimiste ». Deux dangers nous guettent dans la vie chrétienne. Les efforts sans la grâce et la grâce sans les efforts. Les efforts sans la grâce, c'est un peu comme le moteur sans l'essence. La volonté sans la puissance. Cela ne nous mène à rien. C'est la grâce qui nous donne envie et qui nous rend capables de faire ce que Dieu demande. C'est Dieu lui-même qui nous donne le vouloir et le faire. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette référence ? Philippiens 2, 13. Mais on parle du 2-12 juste après. Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Philippiens 2, 13. On connaît bien ce verset, mais on connaît moins bien celui qui vient juste avant et qui va ensemble. Je lis. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. » Et juste après, il nous dit, c'est Dieu qui fait en vous le vouloir et le faire. Cette grâce qui nous transforme, cette grâce qui nous appelle, cette grâce qui nous rend capables, c'est une grâce qui demande aussi nos efforts. Pas des efforts pour atteindre ce que Dieu veut, mais des efforts pour faire ce que Dieu veut, nous demande et nous rend capable de faire. Et si je reprends l'image du scanner que j'employais tout à l'heure, de la parole qui agit comme un scanner. Parfois, il arrive que l'esprit nous parle à travers notre lecture et nous montre quelque chose de particulier qui ne va pas. Ça, c'est le quoi. Mais sans le comment et le quand, au mieux notre état restera stable, mais au pire, il va se détériorer. Une fois qu'on a constaté un problème, il faut agir. Si j'ai une carie, je peux connaître la carie, savoir où elle est, savoir ce qu'il faut faire, avoir lu un livre d'anatomie sur les dents. Et si je ne vais pas chez le dentiste, ça ne va rien changer. Et parfois, ce sera rapide, sans effort. Parfois, il faudra réfléchir à un plan d'action. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, quand on faisait la série sur 1 Timothée, j'avais déjà partagé la méthode de Woody Lewis, qui était notre professeur à l'IBG, qui nous a donné un plan facile à retenir et facile à appliquer pour formuler une application à partir d'un texte biblique. Tu peux le mettre, JD, s'il te plaît ? Excellent, merci. On va juste le parcourir très vite fait, puis j'aimerais qu'on le reprenne à la fin aussi avec ce que nous montre le texte pour essayer d'appliquer cette méthode. D'abord, Woody nous encourage à dégager la vérité du passage. Et souvent, dans notre lecture, ça va être quelque chose que Dieu nous montre, quelque chose qui fait écho particulièrement. Ensuite, de mettre en lumière ma faiblesse par rapport à cette vérité. Par rapport à ce que Dieu me montre, qu'est-ce que je n'arrive pas à faire ? Ou plutôt, qu'est-ce que je devrais faire ? C'est pas tout le temps des choses négatives. C'est aussi des choses parfois positives qui nous appellent à l'action. C'est pas toujours la repentance, ça peut être l'adoration. Par rapport à la vérité que nous montre le passage, ce que je devrais faire, c'est louer Dieu et l'adorer. Ensuite, choisir mon plan d'action. Qu'est-ce que je peux faire ? Quelque chose de précis, quelque chose de faisable pour remédier à cette faiblesse. Parfois, ce sera rapide et ce sera sur le moment. Parfois, ça prendra plus de temps, plus de planification. Parfois, ça ressemblera plus à un marathon. Et ensuite, quatrième point, mettre en place un moyen d'évaluer. De partager ça avec un frère. En ce moment, Dieu m'a montré que je manque de joie. Je manque cruellement de joie. Plus je lis la parole et plus Dieu me montre que si je lui appartiens, que si je suis son enfant, je suis dans la joie. Mais j'y arrive pas. Ça, c'est ma faiblesse. Voilà ce que j'ai décidé de faire. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me demander dans une semaine comment ça va ? Si j'ai fait ce que j'allais dire, ce que j'avais dit que je ferais. Si j'ai rempli ma part. Avoir quelqu'un qui combat à nos côtés, quelqu'un qui prie pour nous, pour que nous puissions faire ce que Dieu nous demande de faire. Alors, on y reviendra tout à l'heure avec les applications à la fin. Jacques nous donne deux motivations pour obéir dans le texte, verset 25. La première, c'est obéir pour être libre. La deuxième, c'est obéir pour être heureux. Obéir pour être libre. Obéir pour être heureux. J'ai pas encore d'enfants. Mais je suis sûr que si vous demandez à des enfants pourquoi ils obéissent à leurs parents, il y a fort à parier qu'ils ne répondront pas qu'ils leur obéissent pour être libres et pour être heureux. Mais vous pouvez essayer. Vous pouvez aussi essayer l'inverse. La prochaine fois qu'ils vous demandent pourquoi ils devraient ranger leur chambre, essayez de leur répondre, tu dois ranger ta chambre pour être libre et pour être heureux. Dites-moi dans quelques temps si ça marche. Et si l'on parle à nos voisins, si l'on parle à nos collègues, si l'on parle à nos amis, il y a fort à parier aussi que, en évoquant l'obéissance à Dieu, ils ne l'associent pas directement et instinctivement à la liberté et au bonheur. Et en fait, si on regarde bien, dans notre propre vie, souvent nous pensons aussi ainsi. Nous pensons la liberté et le bonheur en dehors de l'obéissance à Dieu. Quand on sort un poisson de l'eau, il n'est pas plus libre ni plus heureux. Ou en tout cas, pas pour longtemps. Est-ce que vivre dans l'eau est une contrainte? Oui. Oui, c'est une contrainte. Mais cette contrainte lui permet de vivre. Et Paul nous dit qu'on a été libéré de l'esclavage du péché pour devenir esclave de la justice. Mais Paul nous dit, devenir esclave de la justice, c'est devenir réellement libre. Et c'est quand on sort du cadre bienveillant de Dieu pour notre vie que nous comprenons que si nous vivons sans obéir à Dieu, c'est l'inverse de la liberté et du bonheur qui se produit. Le péché nous enferme dans l'esclavage. Le péché nous amène toujours au désarroi. L'obéissance à Dieu est la condition pour notre bonheur et notre liberté. Mais Jacques nous dit ici que la loi de la liberté, et parle ici de la parole implantée, il parle un peu plus haut, la même parole qui nous a régénérés, nous rend heureux si nous la mettons en pratique. Et du coup, on ne voit pas l'obéissance comme un fardeau, mais comme une bénédiction. Et on n'obéit pas à Dieu par devoir, mais par amour. Ce que Jésus dit dans Jean, celui qui m'aime garde mes commandements. Dans les deux derniers versets du passage, Jacques dresse un contraste encore entre celui qui se croit religieux, mais qui ne tient pas sa langue en bride. Et il reprendra cette expression au chapitre 3 dans ce fameux passage que l'on parcourra aussi ensemble plus tard, où il parle de la langue et des dangers de la langue. Il parlera encore de maîtriser la langue, de la tenir en bride. C'est comme si on mettait le mort dans la bouche du cheval pour le maîtriser. Et ici, celui qui se croit religieux, mais qui ne maîtrise pas sa langue, trompe son cœur. C'est ce que Jacques dit. Celui qui pense être religieux, mais qui parle mal à ses frères et sœurs, trompe son cœur. Il se trompe sur lui-même. Il se croit religieux, mais il ne l'est pas. Notons ici que Jacques reprend la question de la religion pure et sans tache. Il reprend le vocabulaire des rituels de l'Ancien Testament. Il n'oppose pas la religion et la non-religion, il oppose la religion vaine et la religion pure et sans tache. Et le vocabulaire de la pureté, c'était le vocabulaire qui était employé pour les sacrifices. Et ici, Jacques replace la vraie religion, pas comme la religion des sacrifices, mais la religion de l'obéissance à la parole de Dieu. Il fait aussi écho aux paroles des prophètes. Je ne désire pas les sacrifices, ce que je désire, c'est l'obéissance. La vraie religion, pour Jacques, la religion qui exprime notre rapport à Dieu, c'est une religion qui obéit à Dieu. Et plutôt, on a vu que vouloir très fort n'accomplit pas grand-chose. Et ici, on voit que penser très fort ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Et on entend encore l'écho du sermon sur la montagne. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Et quel fruit devrait porter un disciple de Christ ? Le passage de ce matin finit avec ça, le fruit de l'amour et de la pureté. Le disciple de Jésus ne se met pas en colère. Il ne laisse pas libre cours à ses paroles. Mais au contraire, il prend soin de ceux qui en ont le plus besoin. Il fait du bien à ceux qui sont dans l'affliction. Et il se garde des souillures du monde. En fait, il ressemble plus à Christ qu'au monde. J'ai eu beaucoup de peine à préparer cette prédication. J'ai trouvé le texte très dur. Pas forcément difficile à comprendre, mais très dur dans ce qu'il dit. Et on a toujours le souci de porter la parole et de faire justice au ton que l'auteur emploie. Et en regardant aussi les échos du sermon dans la montagne, j'ai revu la dureté salutaire des paroles aussi de Jésus. Mais c'est ce que dit la parole. Et nous avons besoin de la parole. Encore une fois, laissons la parole nous interpeller ce matin. Et en lisant ce passage, on peut penser à deux groupes. Le premier, c'est ceux qui n'écoutent pas la parole parce qu'ils ne l'ont pas reçue. Et le deuxième, c'est ceux qui l'ont reçue et l'écoutent, mais ne la pratiquent pas. Et au premier groupe, Jacques rappelle, comme Jésus l'avait fait, qu'il est possible de se tromper soi-même. Il est possible de s'abuser par de faux raisonnements. Il est possible de faire croire ou de croire soi-même que l'on est chrétien. C'est dur, mais c'est ce que dit Jacques. C'est dur, mais c'est ce qu'avait dit Jésus. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père. Ceux qui obéissent à Dieu montrent par là qu'ils lui appartiennent et qu'ils l'aiment. Alors bien entendu, Jacques ne parle pas de ceux qui ont du mal à lui obéir. Ça, c'est le lot de tous les chrétiens. On a tous du mal, plus ou moins, à lui obéir. Mais il parle ici de ceux qui ne montrent aucun fruit, de ceux qui n'ont jamais changé. Une foi sans résultat, et il le dira beaucoup plus clairement un chapitre plus loin, une foi sans résultat est une foi vaine. Et peut-être que Dieu ce matin est en train de vous parler. Peut-être que Dieu est en train de te parler. Et ce matin, par sa parole, Dieu invite celui qui s'approche de lui à recevoir cette parole qui donne la vie. Ce matin encore. Au deuxième groupe, Jacques rappelle que Dieu recherche une foi intègre. Et on avait vu que c'était un thème qui parcourait toute la lettre. Une foi qui obéit à sa parole. Et on peut être aussi encouragé en se rappelant, comme on l'a vu ce matin, que notre obéissance est aussi le fruit de sa grâce. Que ce que Dieu nous demande, il nous rend capable, par sa grâce, de l'accomplir. Et si on regarde au texte de ce matin, on peut tirer quatre pistes d'application pour nous cette semaine. Le premier, c'est concernant la parole. Le deuxième, c'est concernant la colère. Le troisième, c'est concernant la bienveillance. Et le quatrième, c'est concernant la pureté. On a fait ensemble la première étape. On a dégagé la vérité du texte. On a dégagé la vérité du texte concernant ces thèmes, la parole, la colère, la bienveillance et la pureté. La deuxième étape, il n'y a que vous qui pouvez la faire. Par rapport à ces quatre thèmes, quelle est ma faiblesse aujourd'hui? Je vais poser des questions qui peut-être vous aideront à diagnostiquer, à mettre le scanner en route. Concernant la parole, on peut se demander si on prend le temps de l'écouter. Est-ce que j'ai un moment régulier où je vais à la rencontre de Dieu, où j'ouvre ma Bible et j'écoute Dieu me parler? Est-ce que je laisse mes frères et sœurs m'encourager, me fortifier ou me reprendre? Et moi-même, est-ce que je suis un outil de Dieu pour encourager, fortifier, reprendre mes frères et sœurs? Concernant la colère, on peut se demander si on pourrait nous définir par la colère. Est-ce que les autres me voient-ils comme quelqu'un de colérique? Est-ce qu'ils diraient que ça fait partie de mon caractère? Souvent, on en parle comme quelqu'un ayant un fort caractère. Mais Dieu en parle comme un péché. Et un fort caractère, on peut s'en accommoder. Par contre, un péché, il faut le régler. Autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je devrais demander pardon ce matin? Est-ce que je me suis mis en colère contre quelqu'un récemment ou moins récemment et à qui je n'ai jamais demandé pardon? Et là, le nom que vous avez dans votre tête, cette personne-là, est-ce que vous irez la voir ce matin? Est-ce que vous irez la voir cette semaine? Qui Dieu me demande d'aller voir cette semaine? Et encore une fois, ce n'est pas une punition. Dieu nous dit que c'est le chemin de la liberté et du bonheur. Concernant la bienveillance, est-ce qu'il y a quelqu'un de mon groupe de maison, ou quelqu'un que je connais dans l'église, ou quelqu'un de mon entourage qui aurait besoin de moi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire et que je peux encore faire que je n'ai pas encore fait? Cette semaine, qui je pourrais aller visiter ou qui je pourrais aider? Et encore une fois, ces questions, elles sont personnelles. On a toujours des idées sur ce que les autres devraient faire. Ah oui, j'ai vraiment réfléchi à l'application tout à l'heure, et je pense que tu devrais aller demander pardon à machin. Et la question ici, c'est qu'est-ce que moi je devrais faire? Qui je devrais aller voir? Concernant la pureté, de quoi Dieu me demande-t-il de m'éloigner? De quelle souillure Dieu me demande-t-il de me garder? Dans quel domaine devrais-je prendre des mesures concrètes et radicales? À quel moment j'ai entendu l'arbitre siffler, mais je continue de jouer? Et c'est toujours la même faute que je fais. Et à chaque fois, l'arbitre siffle. Et à chaque fois, je continue sans rien faire. Quel domaine Dieu me demande-t-il de changer? Normalement, vous avez au moins un quoi. Moi, j'en ai. Maintenant, il faut déterminer le quand et le comment. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire devant Dieu. Et je vous encourage à ne pas oublier la quatrième partie. Prenez quelqu'un à témoin de votre engagement. Demandez à quelqu'un de vous aider, de prier pour vous, que Dieu vous donne le courage d'aller voir cette personne, de lui demander pardon. Que Dieu vous donne le courage d'abandonner telle ou telle chose parce que c'est quelque chose que que vous savez être mauvais. Que Dieu vous donne le courage d'aller voir cette personne et de l'aider, même si vous n'en avez pas envie, que vous repoussez. Ayez quelqu'un qui soit un compagnon dans cette marche. Quelqu'un à qui vous donnez le droit de vous demander alors, t'en es où ? Tu m'avais parlé de ça, comment ça va ? Est-ce que je peux encore prier pour toi ? Quels sont ces obstacles ? Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble ? Est-ce que tu veux qu'on y aille ensemble ?